Cependant que la grande tour s'élevait, Don Sanche Lopez, ses Navarrais et ses Anglais, enfermés dans le château, n'avaient pas l'air autrement émus. Les gardes se relayaient à heure fixe sur les chemins de ronde. Les assiégés, bien pourvus de vivres, avaient la mine grasse. De temps en temps, ils envoyaient une volée de flèches sur les terrassiers, mais avec parcimonie, pour ne pas user inutilement leurs munitions. Ces tirs, qui se produisaient parfois au passage du roi, lui procuraient des illusions d'exploit. Avez-vous vu? Tout un vol de flèches est arrivé sur lui, et point n'a bronché notre sire. Ah, le bon roi! Et permettait à l'archiprêtre, à l'orgueil, à la parade, de lui crier « Gardez-vous, sire, on vous ajuste !» en lui faisant rempart de leur corps contre des traits qui venaient finir dans l'herbe à leurs pieds. Il ne sentait pas bon l'archiprêtre. Mais il faut convenir que tout le monde puait, que tout le camp puait, et que c'était surtout par l'odeur que Breteuil était assiégé. La brise charriait des senteurs d'excréments, car tous ces hommes qui pelletaient, charroyaient, sciaient, clouaient, se soulageaient au plus près de leur labeur. On ne se lavait guère, et le roi lui-même, constamment en cuirasse. Usant d'autant de parfums et d'essences que je pouvais, j'eus le temps de bien observer les faiblesses du roi Jean. Par ces merveilles que tant d'inconscience. Il avait là deux cardinaux mandés par le Saint-Père pour tenter une grande paix générale. Il recevait des courriers de tous les princes d'Europe qui blâmaient sa conduite envers le roi de Navarre et lui donnait conseil de le libérer. Il apprenait que les aides partout rentraient mal, et que non seulement en Normandie, non seulement à Paris, mais dans le royaume entier, l'humeur des gens était mauvaise et toute prête à la révolte. Il savait surtout que deux armées anglaises s'apprêtaient contre lui, celle de Lancastre en Cotentin qui recevait renfort, et celle d'Aquitaine. Mais rien n'avait d'importance à ses yeux que le siège d'une petite place normande, et rien ne l'en pouvait distraire. S'obstiner sur le détail, sans plus apercevoir l'ensemble, est un grand vice de nature chez un prince. Durant tout un mois, Jean II n'alla qu'une fois à Paris, 4 jours, et pour y commettre la sottise que je vous dirai. Et le seul édit dont il n'ait pas alors laissé le soin à ses conseillers fut pour faire crier dans les bourgs et bailliages à 6 lieues autour de Breteuil que toute manière de maçon, charpentier, foueur, mineur, houeur, coupeur de bois et autres manœuvriers vinssent devers lui, de jour comme de nuit, portant les instruments et outils nécessaires à leur métier afin de travailler aux pièces de siège. La vue de son grand beffroi mobile, son attournement d'assaut, comme il l'appelait, l'emplissait de satisfaction. 3 étages, chaque plateforme assez large pour que 200 hommes y puissent tenir et combattre, cela ferait donc 600 soldats au total, qui occuperaient cette machine extraordinaire. Quand on aurait apporté assez de fagots et fascines, charrié assez de pierres et tassé de terre pour lui former le chemin où elle roulerait sur ses 4 roues énormes. Le roi Jean était si fier de son beffroi qu'il avait invité à le voir monter et mettre en œuvre. Ainsi s'en était venu le bâtard de Castille, Henri de Trastamare, ainsi que le comte de Douglas. « Messire Édouard a son Navarrais, mais moi j'ai mon Écossais », disait joliment le roi. À la différence près que Philippe de Navarre apportait aux Anglais la moitié de la Normandie, tandis que Messire de Douglas n'apportait rien d'autre au roi de France que sa vaillante épée. J'entends encore le roi nous expliquer. Voyez, mes seigneurs, cet attournement peut être poussé au point que l'on veut des remparts, les surplomber, permettre aux assaillants de jeter dans la place toutes sortes de carreaux et projectiles, d'attaquer à hauteur même des chemins de ronde. Les cuirs qu'on cloue dessus ont pour objet d'amortir les flèches. Et moi qui m'obstinais à lui parler des conditions de la paix. L'Espagnol et l'Écossais n'étaient pas seuls à contempler l'énorme tour de bois. Les gens de Messire Sanche Lopez la regardaient aussi, avec prudence, car l'archiprêtre avait monté d'autres machines qui arrosaient copieusement la garnison de balles de pierre et de traits à poudre. Le château était pour ainsi dire décoiffé. Mais les gens de Lopez n'avaient pas l'air tellement effrayés. Ils ménageaient des trous dans leurs propres murailles à mi-hauteur, pour mieux pouvoir fuir, disait le roi.